Géopolitique,
Chantal Loureau.
Bonjour, bienvenue dans Géopolitique. Le 21 avril dernier, dimanche de Pâques, une série d'attentats simultanés sur 8 sites différents contre des églises et des hôtels faisait plus de 250 morts au Sri Lanka. Des attentats revendiqués 2 jours plus tard par le groupe État islamique, mais réalisés, selon la police de Colombo, par un groupuscule islamiste sri-lankais, le NTJ, dont le chef a prêté allégeance à l'EI. Ces attentats d'une ampleur et d'une organisation inédite sur l'île ont-ils été inspirés ou télécommandé par Daesh? Après la perte de son califat autoproclamé en Syrie et en Irak, l'EI a-t-il décidé de se replier sur l'Asie du Sud et du Sud-Est, d'exporter sa franchise du Sri Lanka à l'Indonésie, du Bangladesh aux Philippines? Quelle est sa stratégie en Afghanistan? Est-il en train de miser sur le vivier de recrutement qu'offrent les ex-républiques soviétiques d'Asie centrale, comme le Tadjikistan? On en débat avec nos invités et je précise que cette émission a été enregistrée le 31 juillet. En ligne de Bishkek au Kyrgyzstan, David Geiser, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géographe, membre associé du Centre Montesquieu de Recherche Politique, Université de Bordeaux 4. À mes côtés en studio, Jean-Luc Racine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, chercheur au think tank Asia Centre. Philippe Migaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à Sciences Po, chercheur spécialiste en conflits irréguliers. En ligne également avec nous, Éric Paulmeyer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite à l'INALCO, historien spécialiste du Sri Lanka. Alors c'est à vous que je vais poser ma première question. Les attentats du Sri Lanka ont surpris par leur ampleur, par la précision de l'organisation. 7 sacs à dos sur 8 qui explosent au même moment en pleine messe de Pâques dans plusieurs villes du pays, dans des églises, des hôtels. Est-ce que les islamistes sri-lankais avaient les moyens d'agir seuls ou est-ce qu'il faut y voir la main armée de Daesh, selon vous?
Écoutez, avant de répondre à votre question, je suis historien, donc j'ai envie de remonter un peu en arrière et de vous expliquer que la situation au Sri Lanka s'explique largement par le fait qu'il y a des conflits internes dans l'islam sri-lankais. L'islam sri-lankais est d'origine soufie et en fait, l'organisation en question, la National Tawhid Jamaat, est une organisation qui a été montée dans les années 2005-2015 par des gens qui étaient revenus de l'Arabie Saoudite ou du Qatar et qui visaient essentiellement la pratique soufie qui était prédominante à Sri Lanka. Et donc ils se sont implantés dans les zones de la région est de Sri Lanka et là ils ont d'abord visé toutes les mosquées qui étaient les mosquées contrôlées par les soufis. Et c'est à partir de cela qu'ils se sont construits une sorte de base arrière et qu'ils ont pu mettre en place une organisation qui effectivement est une organisation locale, même si elle s'est affiliée à Daesh ultérieurement. Et c'est comme ça qu'on peut expliquer ce type d'organisation. Alors le fait qu'ils aient dirigé leurs attentats contre les chrétiens est quelque chose qui est assez étonnant au départ, puisque en fait l'antagonisme qui pouvait exister localement à Sri Lanka était plutôt entre les bouddhistes et les musulmans. Voilà, donc ça c'est le contexte général.
Mais il y a eu donc une dérive quand même de ces islamistes, notamment du National Tawhid Jamaat. Il y a eu des prêches très violents de son chef, Zahran Hashim, qui appelait à la mort des infidèles, qui dénonçait l'importation des coutumes venues d'Occident. Il y a eu profanation de statues de Bouddha. Vous l'avez dit, ils se sont aussi attaqués au temple soufi. Est-ce qu'il fallait y voir un premier pas vers la violence, vers la radicalisation?
Certainement, c'est un phénomène qui était nouveau à Sri Lanka, mais qui existait déjà dans les régions de l'Asie du Sud-Est, comme le sud des Philippines, l'Indonésie. Donc là, il y a une sorte de phénomène plus global, mais qui localement s'est véritablement implanté dans un contexte où le bouddhisme, disons les plus militants des bouddhistes depuis une quinzaine d'années, visaient les musulmans.
Alors, je reviens à ma question initiale. D'après vous, est-ce qu'il faut voir la main armée de Daesh dans ces attentats? Est-ce que Daesh a pu apporter un soutien logistique, financier, parce qu'il a fallu des mois de préparation, sans doute, pour réussir, entre guillemets, ces attaques simultanées?
Écoutez, je ne suis pas du tout spécialiste de Daesh. Je pense que les appuis ont pu venir effectivement des pays du Golfe, également de certaines régions, mais je pense que Jean-Luc Racine pourra parler beaucoup mieux que moi, du Kerala et du Tamil Nadu, où effectivement étaient implantées des organisations du même type. Maintenant, je n'en sais pas plus.
Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui du profil des kamikazes ?
Alors, il s'agit de personnes qui ont séjourné au Moyen-Orient pour certaines d'entre elles et qui appartiennent initialement à des groupes relativement favorisés de la société locale, puisqu'ils sont issus de communautés marchandes établies d'une part sur la côte est de l'île, d'autre part Colombo.
C'est-à-dire qu'ils étaient issus de la classe aisée sri-lankaise ?
Exactement.
Et certains avaient même fait des études à l'étranger ?
Exactement.
Philippe Migaud, comment vous expliquez que ces attentats se soient produits au Sri Lanka ? Pourquoi est-ce que les chrétiens ont été visés sur l'île ?
Parce que c'était une cible facile où personne ne les attendait. Parce que l'attentat au Sri Lanka, même s'il est le plus important des attentats piétons commis depuis le 11 septembre avec 250 morts, est un attentat qui n'aura aucune incidence sur la carte de l'islam mondial et sur la carte du djihadisme. On n'a pas eu de réaction sur le Sri Lanka, on n'a pas eu de pogrom, on n'a pas eu d'émeutes. Les musulmans comptent 7%.
Il y a eu quelques émeutes.
Et les chrétiens comptent 10%.
Oui, mais il y a eu quelques émeutes anti-musulmanes quand même.
Ces émeutes avaient commencé avant. Elles étaient de la part de bouddhistes qui reprochaient justement la violence des actions de ce groupe. Mais il n'y a pas eu d'affrontement entre les communautés. Deuxièmement, s'il y a bien un endroit dans le monde où l'islam radical ne représente pas grand-chose, c'est le Sri Lanka. Le problème, il est entre bouddhistes et hindouistes, traditionnellement.
Alors, est-ce que Daesh est impliqué ? La police sri-lankaise a indiqué fin juillet qu'il n'y avait pas de preuves directes.
Le problème n'est pas que Daesh soit impliqué. Le problème, est-ce que ça rapporte à Daesh ? Oui ou non ?
Alors,
en termes d'image, oui. En termes, je dirais, de prospective à long terme, aucune incidence.
On a évoqué une revanche après les attentats anti-musulmans de Christchurch en Nouvelle-Zélande qui avaient fait 50 morts.
Oui, c'est ce qu'avaient annoncé eux-mêmes, d'ailleurs, les auteurs de l'attentat.
Donc ça, c'est cohérent.
Bien sûr.
Éric Pollmeyer, pourquoi est-ce que le gouvernement sri-lankais avait sous-estimé la menace ?
Bon, le gouvernement sri-lankais n'est pas du tout armé pour faire face à ce type de menace. Mais je pense qu'il y a en plus une situation extrêmement confuse actuellement sur le plan politique, puisque entre le président et le premier ministre, la guerre est déclarée depuis au moins un an. Et donc les élections présidentielles doivent avoir lieu à la fin de cette année. Et donc les autorités sri-lankaises étaient totalement incapables d'entendre les informations qui leur avaient été communiquées par les services secrets indiens, qui étaient au courant de ces menaces d'attentats depuis déjà quelques semaines.
Jean-Luc Racine, les services de sécurité indiens sont beaucoup plus vigilants que leurs homologues sri-lankais par rapport à la menace terroriste islamiste.
Non, je crois que ça a été dit par Éric Meyer, c'est-à-dire que la situation politique et les conflits internes au cercle de pouvoir au Sri Lanka ont fait que les infos communiqués par les services indiens se sont perdus quelque part en route avant que les décideurs en mesure de décider ce qu'il fallait faire puissent le faire. Donc là, c'est vraiment un problème de mal gouvernance en quelque sorte. Et il y a eu d'ailleurs des débats, évidemment, inévitablement au Sri Lanka sur cette faillite des services et de la transmission de ce que les services sri-lankais ont reçu de leurs collègues indiens au gouvernement, en réalité.
Éric Pollmeyer, combien de Sri Lankais avaient rejoint, via les Maldives peut-être, les rangs de Daesh au Proche-Orient ?
Alors, on a parlé d'une soixantaine de jeunes Sri Lankais et probablement encore davantage de Maldiviens. Il se trouve que les Maldives ont été eux aussi une sorte de cible facile pour... Mais ça, c'est lié au fait qu'il y a une forte émigration de travail de Sri Lankais et de Maldiviens, et naturellement également de gens originaires de l'ensemble de ce continent indien vers les pays du Golfe. Donc là, la circulation est facile, et il est clair que dès les années 2010, on avait repéré la présence de très nombreux, enfin de relativement nombreux Sri Lankais qui s'étaient radicalisés dans les pays du Golfe.
David Geyser, Barouz, le dernier fief de l'EI en Syrie, à la frontière irakienne, est tombé le 23 mars, ce qui a marqué en quelque sorte la fin officielle du califat autoproclamé de Daesh. Pourtant, malgré la défaite militaire, l'EI séduit encore et garde une capacité de nuisance. Pourquoi ?
Tout simplement parce que la défaite de Daesh, pour moi, n'est qu'une défaite symbolique militaire. Le conflit de Daesh s'est externalisé sur d'autres terrains. Déjà, une sorte de guérilla va continuer sur le théâtre irako-syrien. Et puis surtout, on a la montée d'autres fronts, notamment dans le nord de l'Afghanistan. C'est celui que je connais le mieux. Et puis aussi au sud-ouest des Philippines, en Asie du Sud-Est.
La perte du califat est évoquée de quelle façon dans le discours djihadiste aujourd'hui ?
Pour eux, c'est simplement une défaite momentanée. On déplace le conflit ailleurs. Et pour l'État islamique, il y a un renforcement au contraire d'autres fronts. Par exemple, actuellement, donc sont mis en avant les actions sur les fronts au sud des Philippines et surtout au nord de l'Afghanistan, avec notamment des prévisions. Il faut savoir que Daesh a une organisation quand même militaire administrativement structurée. Aujourd'hui, on peut voir, concernant le nord de l'Afghanistan, c'est ce que Antonio Giustosi répartit en deux catégories. Il y a l'organisation militaire centrale, donc pour le nord de l'Afghanistan, dirigée par des Tadjiks, mais avec des combattants arabes et Tadjiks, et surtout le EI Khorasan, qui regroupe soit des combattants directs ou soit des groupes franchisés, des groupes islamistes centra-asiatiques franchisés.
Vous écoutez RFI Géopolitique.
David Geyser, on va revenir dans la deuxième partie de Géopolitique sur l'Afghanistan. Philippe Migaud, prêter allégeance à Daesh, c'est une façon pour les groupes islamistes plus ou moins connus de gagner en prestige ?
Je crois que ce qu'il faut d'abord rappeler, c'est que ces groupes, que ce soit en Asie centrale ou en Asie du Sud-Est, sont des groupes qui ont une histoire ancienne et qui ont un passé souvent avec Al-Qaïda. Si vous prenez l'Afghanistan avec Khorasan, qu'est-ce qu'il la fonde ? Ce sont 6 militants pakistanais du TTP, des talibans pakistanais, qui décident de prendre de l'autonomie en se ralliant en 2014 à un modèle barbare et vainqueur qui est celui de l'État islamique. Si vous prenez l'Asie du Sud-Est, qu'il s'agisse des gens de l'ancienne Jama Islamia ou des combattants philippins du Front Moro, ce sont des gens qui n'ont plus de relation avec Al-Qaïda depuis à peu près 20 ans et qui ont besoin aujourd'hui d'une ouverture médiatique qui correspond à celle de l'État islamique. Ce besoin est identique. Alors, on a un phénomène de communication de Daesh, mais qui est lié à un problème évident, c'est celui de sa stratégie. Daesh, en perdant le califat territorial, perd sa principale victoire contre Al-Qaïda. Mais en même temps, il récupère un appareil combattant qui est équivalent à celui d'Al-Qaïda dans la clandestinité. C'est-à-dire un appareil central qui est clandestin et qui reprépare l'insurrection en Irak, c'est son principal projet, des organisations régionales qui doivent faire de la visibilité et des loups solitaires et des groupes domestiques qui doivent faire des attentats pour leur donner de la crédibilité. Qu'est-ce qu'on voit depuis la chute de Baghouz ? Un attentat extrêmement important à Colombo, mais qui n'a aucune incidence dans le temps, et puis des petits attentats au Congo, au Mozambique, qui ne sont également pas significatifs, et puis toujours dans les zones habituelles, c'est-à-dire en particulier l'Afghanistan, contre le siège d'un des colistiers du président sortant. Ça ne présente pas aujourd'hui d'importance stratégique, mais ça permet à l'État islamique de continuer à manifester son existence. Je rappelle la phrase de Raymond Aron, les terroristes ne veulent pas que beaucoup d'hommes meurent, ils veulent que beaucoup d'hommes sachent. On est dans une politique de communication.
Jean-Luc Racine, il y a un pays dont on parle peut-être un peu moins, c'est le Bangladesh, même si on se souvient de l'attaque du 1er juillet 2016 contre un restaurant UP de Dhaka. L'EI avait revendiqué cette opération qui avait coûté la vie à 20 civils, dont des Japonais, des Italiens. Mais les ministres de l'Intérieur du Bangladesh avaient accusé le Jamaat ul-Mujahideen, prononciation non garantie, d'avoir fomenté l'opération. Et il avait nié toute présence de l'État islamique au Bangladesh. Est-ce qu'aujourd'hui, les autorités de Dhaka ont changé de discours ?
Oui, de toute façon, c'est un grand classique. Le déni est toujours un grand classique politique. On commence par le déni, et puis il y a un moment où le déni n'est plus tenable. Mais en même temps, il y a une marge de manœuvre pour le discours politique, dans la mesure, et ça vient d'être dit, où il y a une certaine fluidité dans les groupes. Pour l'attentat de Dhaka, il y a eu des points d'interrogation. Est-ce que ce sont des groupes locaux qui revendiquent une affiliation avec Al-Qaïda? Et puis finalement, c'est une affiliation avec Daesh. On retrouve là finalement ce que j'appellerais presque un principe de confusion dans l'analyse. Et il y aura d'autres exemples. Il y en a un tout à fait saisissant au Cachemire récemment, où, encore une fois, l'affiliation de Daesh ou bien des manifestants qui tout à coup sortent le drapeau de Daesh. Ça fait partie au départ d'une volonté de radicalisation manifeste, et le mot important ici c'est manifeste, puisqu'encore une fois c'est une stratégie de communication. Donc pour le Bangladesh, oui, aujourd'hui quand même, il est difficile de nier qu'il y ait une menace, qui est une menace transfrontalière, et l'un des grands problèmes de l'Asie du Sud, c'est qu'il n'y a pas de coopération qui couvre toute la région, sur ce domaine. Autrement dit, les informations circulent pour l'essentiel en bilatéral, ce qu'on avait vu d'ailleurs avec le Sri Lanka, entre les services indiens et les services sri-lankais. Donc là aussi, on retrouve des phénomènes de même type et des évolutions de même type à travers les pays de la région, mais il reste évidemment à chaque État de prendre les mesures qui conviennent.
L'armée indienne, elle aussi, est dans la même attitude que les autorités du Bangladesh. Elle nie la présence de l'EI sur le territoire indien.
Non, mais elle l'évalue, je pense, à sa juste mesure. C'est-à-dire que l'Inde, c'est un cas très particulier. C'est le troisième pays musulman du monde, après l'Indonésie et le Pakistan. Or, il n'y a pas de connexion très nette entre ce qui se passe au Cachemire et le reste du pays. Et les services indiens et la police indienne ont depuis longtemps contrôlé, pour l'essentiel, les groupes islamistes radicaux, ce qui n'empêche pas, évidemment, qu'il puisse y avoir une présence, mais qui est une présence limitée. Il y a peu d'Indiens qui sont partis en Syrie.
On a parlé de personnes parties du Kerala.
Oui, mais le Kerala, c'est le point majeur de la migration indienne vers le Golfe. Donc, on retrouve des schémas absolument classiques. Et de façon significative, là encore, la plupart des Indiens jugés affiliés à Daesh, ce sont des gens qui ont fait des études supérieures, le plus souvent.
Hein. Ingénieur, médecin.
Il y a un cas récent, je ne sais plus s'il est indien ou pakistanais, c'est quelqu'un qui avait un MBA d'une université australienne. Enfin, il faut quand même se rappeler que les Saoudiens du 11 septembre ne venaient pas des classes les plus populaires du pays.
Alors comment vous expliquez-vous ce pouvoir d'attraction qui perdure de l'EI sur cette classe favorisée, sur ces milieux favorisés?
Là, on dépasse en fait le cadre de Daesh en général, le cadre de la radicalisation. Finalement, il y a un argumentaire dans les classes favorisées, pour ceux qui décident de s'affilier à Daesh ou de revendiquer une affiliation, qui est en quelque sorte le pas ultime de la radicalisation. Donc, il fut un temps où ça aurait été Al-Qaïda, même si aujourd'hui il y a toujours des confusions dans certains cas individuels entre Al-Qaïda et Daesh. Il est clair que aujourd'hui Al-Qaïda dans la région, mais on reviendra peut-être là-dessus, n'a plus le prestige qu'il avait autrefois. Et, le prestige majeur d'Al-Qaïda vient plutôt des filiales à travers le monde que de la maison mère.
On va se quitter le temps d'un nouveau journal sur RFI. Éric Pollemeyer, je vous libère. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. Philippe Migaud, Jean-Luc Racine, David Geyser, vous restez avec moi. On se retrouve dans 10 minutes pour continuer à parler des ambitions de Daesh en Asie.
Géopolitique.
Chantal Leroux.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie de Géopolitique. Après avoir vu son rêve de califat s'effondrer sous les bombes en Syrie et en Irak, le groupe État islamique compte-t-il établir ses bases arrières en Asie centrale, Asie du Sud ou du Sud-Est? De la fusillade contre un café branché de Dhaka au Bangladesh en 2016, aux attentats de Jolo aux Philippines en janvier dernier, à ceux du Sri Lanka à Pâques, en passant par les insurrections islamistes dans les prisons tadjiques, les signaux sont au rouge. Alors, quelle est la stratégie de Daesh en Asie? On continue d'en débattre avec les chercheurs Jean-Luc Racine, Philippe Migaud et David Geyser. Philippe Migaud, est-ce que Daesh a encore en tête de rétablir le califat au Proche-Orient sur le territoire syro-irakien, ou est-ce que maintenant son ambition c'est d'établir un autre califat en Asie? On a beaucoup parlé des Philippines par exemple.
Non, l'objectif de Daesh c'est toujours de rétablir le califat, en particulier en Irak, à moyen terme, en se basant sur la frustration des populations sunnites contre la répression depuis la défaite militaire de Daesh. Là, le véritable problème au Moyen-Orient, c'est la marginalisation des sunnites. Tant que rien ne sera fait pour y contrecarrer, on aura toujours des problèmes. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites quand vous dites que Daesh a été chercher des organisations régionales. Moi, je pense que ce sont au contraire des organisations locales qui, ayant besoin de visibilité médiatique, ont choisi un modèle brutal et victorieux dans les années 2014. Et qu'à partir de ce moment-là, il y a un échange de bons procédés. Ces gens-là réapparaissent et obtiennent du recrutement, de l'argent, des moyens de mener leur action locale avec un agenda et une stratégie qui reste d'abord une stratégie locale. Et puis l'autre part, cela donne de la visibilité à Daesh qui en a besoin aujourd'hui pour continuer à représenter une menace.
En mai dernier, Jean-Luc Racine, l'EI a annoncé via son agence AMAC la création de wilayas, c'est-à-dire de provinces en Inde et au Pakistan. Quelle est la stratégie du mouvement dans ces deux pays aujourd'hui?
Alors, il faut remonter un peu en arrière parce que la wilayat Hind, c'est-à-dire celle de l'Inde, c'est une décision qui vient 3-4 ans après la décision de créer la wilayat du Khorasan, c'est-à-dire ce vieux nom qui désigne des terres, on va dire, centrées sur l'Afghanistan et ses marges, pour faire bref, y compris une part de l'Iran. Là encore, on se retrouve dans la dialectique entre l'État islamique et Al-Qaïda, puisque après la proclamation du califat, dès la fin 2014, Al-Qaïda annonce la création de Al-Qaïda dans le sous-continent indien, avant même que Daesh, quelques mois plus tard, en 2015, en janvier 2015, n'annonce la création de la wilayat du Khorasan. Autrement dit, il y a une compétition entre les deux organisations qui tient pour une part à la volonté de préserver les acquis du côté d'Al-Qaïda, mais il y a aussi des divergences idéologiques pour une part. Mais dans les deux cas, ce qu'on avait vu sous Al-Qaïda, on le revoit sous l'organisation État islamique. Les groupes ou les factions les plus radicales de groupes islamistes militants qui trouvent que leur direction s'amollit en quelque sorte vont faire scission et vont afficher leur appartenance à Daesh. Le cas le plus significatif ici, c'est celui des factions qui ont quitté les talibans pakistanais pour être... En fait, c'est eux qui ont dirigé la wilayat Khorasan de Daesh. Et les deux ou trois premiers chefs, tous ont été éliminés par des drones, c'était tous des militants venus des rangs des talibans pakistanais. Or, les talibans pakistanais, leur bastion, c'est les zones tribales. Donc les zones tribales pakistanaises, ça fait partie du Khorasan, mais évidemment, tout ce qui touche au Pakistan, ça fait partie aussi de cet ensemble plus vaste, où on se retrouve dans une compétition avec d'un côté Al-Qaïda dans le sous-continent indien. Ça veut dire ce que ça veut dire, mais ça reste quand même un peu flou. Et de l'autre côté, donc, cette nouvelle province de Daesh centrée sur un des Pakistans. Et ça inclut le Cachemire, bien entendu.
Et est-ce que l'EI a des sympathisants au sein de l'armée pakistanaise, Jean-Luc Racine?
C'est très difficile à dire. Je ne pense pas que ça soit significatif. Autant il y a eu des sympathisants pour une radicalisation maximale, mais qui était aussi un instrument géopolitique pour garder une influence décisive en Afghanistan. Daesh, c'est un modèle complètement différent. Ce que les militaires pakistanais ont joué pour l'essentiel, c'est la carte des talibans. Or, les tensions entre les talibans et Daesh, ça, c'est évidemment un autre sujet, mais qui est un sujet essentiel à la fois pour l'évolution de la situation afghane et pour les rapports entre Américains, Russes, Iraniens et Pakistanais dans les évolutions en cours en Afghanistan et entre autres, évidemment, dans les négociations entre les Américains et les talibans. Puisque la présence de Daesh sur le sol afghan, probablement quelques milliers de personnes avec des foyers, donc comme il a été dit, certains proches de la frontière pakistanaise, d'autres proches de l'Asie centrale, tout cela est mis en avant par Moscou et par Pékin pour appuyer en fait des négociations avec les talibans, parce que en réalité dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, les puissances sont prêtes à s'accommoder des talibans qui sont portés par ce que j'appellerais un islamo-nationalisme, qui est évidemment beaucoup moins perturbant que l'islamisme transnational et d'Al-Qaïda et de Daesh.
Ce qui est oui, Philippe Migaud. Je voudrais juste aller dans le sens de Jean-Luc Racine. Si Al-Qaïda crée Al-Qaïda dans le continent indien, c'est pour marquer son image et sa force à un endroit, alors que, quelques mois plus tôt, en juin, le califat vient d'appeler au contrôle de tous les musulmans. C'est-à-dire que, en proclamant le califat, Al-Baghdadi dit « tous les musulmans doivent obéir, y compris ceux d'Al-Qaïda ». Donc Al-Qaïda répond en créant Axi. Et là, on est dans une série de marquages de zones, dont la Absolument. Plus récente manifestation, c'est la création, en effet, de deux wilayas en Inde et au Pakistan, mais également des conflits d'image au Pakistan pour créer un conflit local qui appartienne à l'une ou l'autre des tendances.
Vous écoutez RFI, Géopolitique.
David Geiser, vous avez publié en juin sur DiploWeb un article sur la géopolitique de Daesh. Qu'est-ce qui vous fait vous demander si les prisons tadjiques ne sont pas le cheval de Troie du groupe État islamique en Asie centrale ?
Le Tadjikistan, déjà par définition, c'est un État où l'autorité du pouvoir central a du mal à s'affirmer au-delà de Douchanbé. Il va de soi que les prisons tadjiques sont plus ou moins infiltrées par des membres de l'organisation État islamique. Elles sont aussi la révélation de liens, je dirais, poreux entre, évidemment, certaines personnalités politiques locales et des membres des organisations djihadistes. Juste pour donner quelques exemples, on a un ancien ministre des situations d'urgence tadjik qui, déjà en 2009, était passé du côté islamiste. Et dernièrement, surtout, c'est le dernier ministre de la guerre de Daesh, Gulmorod Khalimov, qui était un ancien des forces spéciales, les aumônes tadjiks, et dont le fils, justement, a activé la dernière révolte dans la prison de Vardat en mai dernier.
Donc il y a une porosité entre les cellules islamistes et l'état-major militaire tadjik.
Ah, totalement, totalement. Et il y aurait, alors là, c'est une information à confirmer, c'est ce que révèle l'agence Fergana News, il y aurait encore 15 membres de forces spéciales tadjik, basé à Khorog au sud, qui serait passé du côté afghan, rejoindre les combattants de Daesh.
David Geiser, est-ce que le pouvoir à Douchanbé a commis une erreur en interdisant en 2015 le parti de la Renaissance islamique, qui était un parti légaliste et modéré ?
Je le pense, parce que d'un côté, bien sûr, ça a activé la radicalisation dans son ensemble. Alors d'un côté, on a pas mal de membres du PRI qui se sont radicalisés et dont certains seraient partis en Afghanistan. Et de l'autre côté, on a vu que des sympathisants du PRI, qui étaient emprisonnés dans la prison de Vardat, ont été exécutés justement par des gens plus radicalisés. Donc le PRI s'est retrouvé vraiment coincé et pris en étau entre deux forces. Pour moi, ce fut une erreur.
Alors, il n'y a pas qu'au Tadjikistan que le IF est des émules. Il y a aussi le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan et le Kyrgyzstan. Est-ce que la situation est très différente d'un État à l'autre, ou est-ce que le profil des hommes, ou des femmes d'ailleurs, séduits par Daesh est sensiblement le même ?
Le profil des femmes et des hommes est bien sûr est sensiblement le même. Comme on l'a dit en première partie, hein, personne n'échappe à la radicalisation et au recrutement. On a même pas mal de recrutements dans les classes favorisées. En Asie centrale, Je dirais que le recrutement se fait surtout quand même à l'extérieur. On a beaucoup d'émigration économique vers Moscou ou vers la Turquie à moindre mesure. Et c'est une fois là-bas éloignés de leurs racines que ces jeunes se trouvent à la fois fragilisés et en proie justement au recrutement.
Et ils se font recruter comment ? Via Internet ?
Je dirais de manière mineure, de façon mineure, via Internet. De façon plus générale, par des réseaux locaux déjà établis sur place, par la solidarité ethnique, voire régionaliste en Ouzbékistan, puisqu'on a des groupes construits sur une base régionaliste qui combattent dans le nord de l'Afghanistan aux côtés de, justement, de Daesh. Par ailleurs, je voudrais quand même rajouter qu'au Kyrgyzstan, du fait d'une liberté plus grande, on a des groupes radicaux non violents qui sont tolérés. On a d'une part une organisation qui est le Jamaat Itablir, qui a maintenant pignon sur rue dans les villages et qui perturbe, je dirais, l'islam local.
Mais qui condamne le terrorisme et la violence.
Oui, tout à fait. Et son pendant en politique, avec le Hizb ut-Tahrir, qui est tout aussi non violent, mais qui prône quand même un islam très rigoriste, et déjà anti-chiite, et appelant, alors sous une forme encore non violente, à la guerre sainte, mais le fil est mince, et beaucoup de jeunes après peuvent basculer. Je précise que ces jeunes radicalisés, donc passant par Moscou et dans une moindre mesure par Istanbul et d'autres villes de Turquie, donc après se retrouvent soit passés par le théâtre irako-syrien avant de revenir en Asie centrale où ils pouvaient réactiver des cellules dormantes, ou soit peuvent se rendre aussi dans les zones tribales pakistanaises et surtout maintenant dans le nouveau front ouvert au nord de l'Afghanistan.
Mais David Galzer,
c'est notamment le cas des jeunes turkmènes.
Vous pensez vraiment que l'EI a une stratégie d'embrasement de l'Asie centrale à partir de ses flancs les plus faibles ?
Je pense que oui. Bon, le but de Daesh, à terme, est selon moi messianique. C'est-à-dire, c'est une organisation radicale, c'est la soumission du monde. Par contre, il y a plusieurs étapes pour y parvenir. Il faut avancer en faisant tomber les pans les plus faibles. Les pans les plus faibles, on l'a vu, c'est le Tadjikistan, puis dans une moindre mesure son prolongement Ferganais. Donc la vallée du Fergana, qui est une vallée multiethnique, est assez ouverte à la radicalisation, traditionnellement. Et puis aussi le sud-est du Turkménistan, qui a de longues frontières très poreuses avec l'Afghanistan. Les actions immédiates, pour moi, sont là. Et le Tadjikistan constitue l'état le plus fragile d'Asie centrale, celui qu'il faut pour Daesh abattre en premier.
Jean-Luc Racine, vous êtes d'accord avec ce pessimisme de David Galzer ?
Je suis pas un spécialiste de Daesh en tant que tel, bien sûr, mais j'ai un peu de mal à pouvoir décider s'il reste quelque part un grand stratège ou un groupe de stratèges qui soit capable de planifier. Le penser, oui, mais le planifier, c'est autre chose. Et je pense que la clé du problème est quelque part entre ceux qui, parmi les fondateurs de l'État islamique, ont une vision stratégique des choses, et puis tout ce qui se passe à travers toute l'Asie, et dont on s'est déjà beaucoup entretenu, c'est-à-dire la fluidité entre des groupes divers qui ont pu ou pas s'affilier d'abord à Al-Qaïda et qui retrouvent dans la radicalisation maximale de Daesh et dans sa médiatisation, ce qui me paraît très important, le moyen d'avoir soit une seconde jeunesse, soit de rebondir dans un contexte qui n'est quand même pas si simple que ça. On se demandait si l'Afghanistan allait devenir le second front. La présence de Daesh en Afghanistan est suffisante pour inquiéter beaucoup de monde. Mais enfin, ça n'est jamais que quelques milliers de personnes. Oui.
Philippe Migaud.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Je pense que on a encore avec le Tadjikistan l'exemple d'un djihad ancien. En 1997, le mouvement islamique du Tadjikistan s'installait au Tadjikistan avant de partir en Afghanistan. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. La volonté de l'État islamique de récupérer ces phénomènes, elle tient à un point précis. On a une quinzaine de provinces extérieures de l'État islamique aujourd'hui qui ont adhéré vers 2014-2015, toutes parce que elle voulait faire allégeance à un modèle victorieux. Aujourd'hui que le califat territorial est par terre, c'est-à-dire que l'État islamique se retrouve au même niveau qu'Al-Qaïda, Est-ce que ces gens vont continuer à suivre l'État islamique ou adopter ou se replier sur un agenda local et une stratégie locale? Pour l'instant, on est dans les deux. C'est-à-dire qu'ils sont, au point de vue stratégie, sur un agenda local, mais au point de vue médiatique, cela rapporte à l'État islamique. Ce n'est pas sûr que cela continue partout de la même manière dans les prochaines années.
Jean-Luc Racine, vous partagez l'analyse de Jean-Pierre Filliou qui parle de tactique locale de Daesh, c'est-à-dire des actions locales pour des objectifs globaux.
Oui, en tout cas de la part des stratèges. Après, les gens sur place, eux, ils ont leur propre logique qui s'inscrit dans des factions, dans des luttes entre groupes, dans des luttes entre des personnes. Et c'est extrêmement important, et en particulier, c'est extrêmement important pour les États. Parce que ce qui est craint aujourd'hui, aussi bien en Afghanistan, où les négociations avec les talibans, bon, elles s'enlisent vis-à-vis du duo les talibans et Kaboul, mais elles se poursuivent avec les Américains, d'un côté, et au Pakistan, où des signaux ont été donnés dans la lutte du pouvoir contre les groupes islamistes opérant essentiellement au Cachemire ou contre l'Inde, avec beaucoup d'ambiguïté. Mais on sent bien que ceux qui mènent la lutte contre la radicalisation ou contre le terrorisme craignent par-dessus tout que des accords ou des répressions contre les groupes existants fassent qu'une faction de ces groupes les quitte pour rejoindre Daesh ou le drapeau de Daesh, quelle que soit l'organisation. Ça a déjà été le cas au sein de factions des talibans. Ça a été le cas au sein d'une faction, de plusieurs factions des talibans pakistanais, qui aujourd'hui sont en position très délicate au Pakistan même. Et ça a été le cas chez certains groupes djihadistes où on sait qu'un certain nombre de membres des Lashkar-e-Taiba, dont la cible majeure c'est l'Inde et le Cachemire, se sont affiliés à Daesh. C'est ça la grande crainte de tous les États qui ont à définir une stratégie dans ce contexte particulièrement complexe.
Et une fois les Américains partis, désengagés d'Afghanistan, est-ce qu'on s'achemine donc vers une guerre ouverte entre Daesh et les talibans, Jean-Luc Racine?
Bon, la guerre ouverte, d'une certaine façon, elle a déjà eu lieu.
Là, mais en même temps, il y a des collaborations ponctuelles sur le
terrain. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Elle a déjà eu lieu, mais avec certaines ambiguïtés. Bon, il y avait une lettre célèbre qui s'avère peut-être être un faux du Mollah Omar, qui n'était déjà plus le Mollah Omar, mais c'était le Mollah Mansour, qui l'avait rédigé à Al-Baghdadi en disant « Mon cher frère, mais en fait, bon, en gros, mêle-toi de ce qui te regarde, ici on est chez nous ». On n'est pas tout à fait sûr que cette lettre soit authentique. Mais son contenu faisait sens. Et en réalité, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que cette période d'incertitude vis-à-vis de ce que sera la posture américaine, bon, il est entendu que les Américains devraient garder probablement une ou deux bases et 1000 ou 2000 personnels de leur force. Mais c'est bien ce qui inquiète Kaboul, et pas seulement Kaboul, mais c'est aussi toute l'ambiguïté de la chose. C'est-à-dire que face à Daesh, les talibans afghans sont devenus des gens très fréquentables, qui sont reçus partout.
Et on aura l'occasion de reparler donc bientôt de l'Afghanistan à l'occasion de la présidentielle prévue en septembre. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Jean-Luc Racine, directeur de recherche émérite au CNRS, membre d'Asia Centre. Vous avez piloté le dernier numéro de la revue Hérodote, géopolitique de l'Inde. Philippe Migaud, maître de conférence à Sciences Po. Vous avez publié en 2015 chez Plon le djihadisme, le comprendre pour mieux le combattre. Un livre coécrit avec Farad Khosrow Ravar et David Benichou. Et vous aviez signé en 2007 l'islamisme combattant en Asie du Sud-Est aux éditions de l'IRASEC. David Geiser, merci beaucoup d'avoir été avec nous en ligne de Bishkek. Vous êtes géographe et chercheur associé au Centre Montesquieu de Recherche Politique, Université de Bordeaux 4. Et puis Éric Paul Meyer, historien, spécialiste du Sri Lanka et auteur d'une histoire de l'Inde, Les Indiens face à leur passé, paru aux éditions Albin Michel. Merci à Nathalie Laporte qui a réalisé cette émission et à Véronique Durand et Yael Co qui m'ont aidé à la préparer. Bonne semaine.